L'éclatement de l'URSS a été la plus grande tragédie que mon pays a vécue. Qui parle ainsi, non pas un nostalgique de l'ère stalinienne, mais l'actuel maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Un aveu qui explique la politique russe dans le Caucase. Et d'abord, nous en avons parlé la semaine passée avec Monsieur X, parce que les généraux en particulier n'ont toujours pas accepté que cette implosion de l'Empire soviétique ait ruiné l'œuvre colonisatrice de la Russie traditionnelle. Des regrets d'autant plus amers qu'en Asie centrale et au Caucase, les Américains taillent des croupières aux Russes et essaient de s'imposer tant politiquement qu'économiquement, à tel point que certains observateurs ont pu parler d'une nouvelle guerre froide. Au centre de cette confrontation se trouve la Géorgie, une ex-république soviétique qui a accouché de son indépendance dans la douleur et la violence. Un territoire en miettes, une mosaïque de nationalités qui n'ont pas cessé de se déchirer jusqu'à aujourd'hui. Et malgré l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Saakachvili en 2003 à la faveur de ce qu'on a appelé la Révolution des Roses, deux régions géorgiennes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, sont encore indépendantes du pouvoir central. La guerre qui sévit toujours chez le voisin tchétchène, l'action souterraine des États-Unis et de la Russie, attise ces conflits sur lesquels flotte une forte odeur de pétrole. Monsieur X continue de démêler les chevaux géorgiens.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suive? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'allait jamais revenir.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur.
Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Des soleils révolus.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Un mot d'abord sur l'Ossétie du Sud.
Oui, c'est bien l'Ossétie géorgienne.
Oui, car l'Ossétie du Nord, où s'est déroulée récemment l'épouvantable tragédie de la prise d'otages de Beslan, est rattachée à la Russie.
Oui, mais enfin, il s'agit quand même du même peuple.
Bah, situé de part et d'autre de la chaîne montagneuse caucasienne, et les Ossètes du Sud demandent à rejoindre leurs compatriotes du Nord.
Une sorte de, comment, de réunion naturelle.
Oui. Même si peu à peu, Ossètes du Sud et du Nord ont cessé d'entretenir des rapports étroits. Et pour tout dire, au Nord, on ne se préoccupe guère des 60 000 Ossètes qui vivent au Sud.
60 000, c'est très peu.
Et pourtant, cette minorité a posé et pose encore de sérieux problèmes aux Georgiens. Je ne veux pas remonter trop loin, ce serait fastidieux, mais sachez quand même que l'Ossétie a toujours constitué un enjeu stratégique pour Moscou. Parce que c'est là que se trouve la seule passe qui permet de franchir la montagne caucasienne. Autre chose, Ossètes et Georgiens ont longtemps vécu en paix et même en osmose, en particulier parce que les deux peuples sont chrétiens dans un environnement islamique.
Alors, on peut se demander pourquoi ça va se gâter.
Ah ben, la cause première, c'est le réveil du nationalisme georgien.
Oui, un réveil qui inquiète donc les Ossètes.
Naturellement, ce nationalisme est chauvin et xénophobe. Les Ossètes ont alors peur d'être georgisés, si vous me permettez ce barbarisme. Et ils ont quand même en partie raison. Dès qu'il arrive au pouvoir en 1991, le président georgien Khamsakourdia multiplie les mesures vexatoires vis-à-vis des Ossètes.
Quoi, c'est des provocations ?
Certainement, et qui produisent rapidement leurs effets. Les Ossètes prennent les armes, les Georgiens ripostent en envoyant des troupes.
Oui, ces milices dont vous avez évoqué l'existence dans le premier entretien.
Oui, et de chaque côté, on fait assaut de cruauté alors qu'on a si longtemps vécu en paix. C'est un vrai désastre.
Les Russes, alors ?
Oh, ben, ils ne peuvent pas rester inertes, d'autant qu'ils rêvent d'annexer l'Ossétie du Sud à la Fédération de Russie.
C'est-à-dire comme l'Ossétie du Nord.
C'est ça. Donc, ils arment sans l'avouer publiquement les combattants Ossètes. Et enfin, devant la dégradation de la situation, ils s'engagent directement.
Militairement, vous voulez dire ?
Oui, et ils imposent la paix.
Leur paix ? Bah,
bien sûr. Depuis, l'Ossétie du Sud est devenue de facto une république autonome qui ne dépend plus de Tbilissi.
Attendez, qui n'a toutefois pas été rattaché, enfin, quand même, à la Russie.
En effet, mais cette autonomie arrange bien les Russes et surtout les mafias qui en ont fait une zone où tous les trafics sont permis et qui alimentent la contrebande en direction de la Géorgie. Alors, parlons maintenant de l'autre foyer irrédentiste, l'Abkhazie.
C'est-à-dire l'Abkhazie, située au bord de la mer Noire, hein, c'est ça, au nord-ouest de la Géorgie.
Oui, c'est exact. Une région privilégiée tant par son climat que par ses richesses naturelles. Les Abkhazes sont ethniquement et linguistiquement différents des Georgiens. Après la révolution d'octobre, les bolcheviks en ont fait une république socialiste, mais Staline en a ensuite décidé autrement.
Oui, Staline, le géorgien.
Il faut se nier, oui. Le petit père des peuples a ravalé l'Abkhazie au simple rang de région autonome, décimé les opposants abkhazes et organisé la colonisation par les Georgiens. Tant et si bien qu'à la fin des années 80, les Abkhazes étaient largement minoritaires sur leurs propres terres. À peine 20% de la population.
Et le réveil nationaliste géorgien, donc, produit les mêmes effets qu'en Ossétie du Sud ?
Ah, tout à fait. Et on assiste à un pourrissement progressif de la situation et à l'éclosion d'une vraie guerre dans les années 92-93.
Alors que Shivarnadze, il faut noter, est devenu le nouveau président géorgien.
Oui, considéré comme l'homme providentiel, il revient dans sa patrie en 1992. Alors cette guerre, je vous passe tous les détails, mais les deux camps utilisent des moyens lourds, blindés, avions d'attaque, missiles.
Une guerre conventionnelle.
Oui, qui provoque des milliers de morts.
Oui, alors que Shevardnadze est devenu le nouveau président géorgien.
Oui, considéré comme l'homme providentiel, il revient effectivement dans sa patrie en 1992. Alors cette guerre, bah, je vous passe les détails, mais les deux camps utilisent des moyens lourds, blindés, avions d'attaque, missiles.
Oui, une guerre conventionnelle. Quoi.
Oui, qui provoque des milliers de morts.
Mais comment les Abkhazes, qui sont si peu nombreux chez eux, peuvent-ils résister ?
Ces séparatistes reçoivent de nombreuses aides et bénéficient du soutien des autres minorités présentes en Abkhazie. Les Russes, les Arméniens, les Grecs, en outre de nombreux combattants caucasiens les rejoignent.
Ah oui, des Tchétchènes par exemple.
Bien entendu, et parmi eux on va retrouver le trop fameux Chamil Bassaïev. Mais je ne reviens pas sur ce point car je vous en ai parlé la semaine dernière.
C'est juste, ouais. Et vous m'avez dit alors que ce Bassaïev, hein, qui a revendiqué la récente prise d'otage de Beslan, agit alors en plein accord avec Moscou.
C'est exact, car comme en Ossétie du Sud, les Russes sont fortement impliqués dans ce conflit régional. Et d'abord parce qu'ils possèdent en Abkhazie une puissante base militaire. D'autre part, les chefs abkhazes qui conduisent la guerre sont d'anciens membres des forces de sécurité russes.
Ouais, donc ils ont toujours des accointances avec leurs camarades.
Ah, ça me paraît presque obligé. Et les militaires russes n'hésiteront pas à intervenir ponctuellement pour venir au secours des combattants abkhazes.
Mmh. Et comment alors se termine cette sale guerre,
hein? Par la victoire des abkhazes qui réussissent à reprendre le contrôle de tout leur territoire. Désemparés, Shevardnadze se résigne à faire appel à Moscou pour stabiliser la situation.
J'imagine que c'est ce qu'espéraient les Russes.
Bien sûr. La victoire abkhaze, c'est aussi celle de Moscou qui a obligé la Géorgie, au moins provisoirement, à rejoindre le giron russe et à adhérer à la CEI, la communauté des États indépendants, qui regroupe donc la plus grande partie des ex-républiques soviétiques.
Et là, depuis cette victoire, alors?
Les Abkhazes ont procédé à une véritable purification ethnique.
Ah oui, en chassant les Géorgiens?
Oui, je crois que plus de 270 000 d'entre eux ont dû fuir l'Abkhazie, de gré ou de force. Et bien évidemment, comme dans toutes ces opérations, on a assisté à de nombreuses atrocités.
Pour faire fuir ces populations indésirables.
Et depuis, c'est le statu quo. En 1999, les autorités abkhazes ont organisé unilatéralement un référendum qui a consacré de fait l'indépendance de leur pays. Mais Tbilissi n'a pas renoncé à reprendre un jour le contrôle de l'Abkhazie.
Ouais. C'est-à-dire par la force?
Oh, par la négociation. C'est ce que prône en tout cas le nouveau président géorgien, Saakashvili. Car tout n'est pas réglé. Il y a en particulier la question de tous ces réfugiés. Certains d'entre eux ont créé des groupes paramilitaires qui franchissent parfois clandestinement la frontière et commettent des attentats en Abkhazie.
Donc, ce territoire demeure un foyer d'agitation.
Et l'incendie pourrait se rallumer facilement. En tout cas, Moscou semble avoir pris conscience de l'imprudence de son attitude.
L'imprudence, alors c'est-à-dire...
En encourageant les séparatistes abkhazes, les Russes ont joué les apprentis sorciers.
À cause de la Tchétchénie?
Évidemment. Des combattants tchétchènes se sont battus à côté des abkhazes. Pour beaucoup, cette guerre a même servi d'entraînement. Ils ne comprennent pas, ou feignent de ne pas comprendre, pourquoi la Russie leur refuse une indépendance qu'elle a contribué à octroyer aux Abkhazes. Par conséquent, les Russes ont amorcé un net refroidissement de leur rapport avec la petite Abkhazie.
Mais peut-être un peu tardivement, non?
Ça c'est certain. Et aujourd'hui, le Kremlin est l'un des plus fervents partisans d'une solution négociée. D'autant qu'il doit faire face à la concurrence américaine en Géorgie.
Ah, là, il leur faut maintenant caresser les dirigeants géorgiens dans le sens du poil.
Et Moscou va en faire la démonstration à propos de la crise Adjar.
Adjar, de quoi s'agit-il encore?
L'Adjarie est une petite région du sud-ouest de la Géorgie, adossée à la frontière turque.
Et là aussi, il y a des séparatistes.
Oui, je ne vais pas me répéter, mais le réveil nationaliste géorgien a donné un coup de fouet à tous ces particularismes régionaux. Alors oui, les Adjars aussi. Et un satrape local, ancien apparatchik soviétique, s'est imposé à la tête de ce territoire. Aslan Abashidze, c'est son nom, est même allé très loin puisqu'il a fermé les frontières de l'Adjarie et refusé de participer au budget fédéral.
Ouais, c'est une quasi-sécession.
Absolument. Or, ce petit morceau de Géorgie est stratégique. Non seulement parce qu'il s'y trouve une grosse base russe, mais aussi parce que l'oléoduc BTC doit y passer.
BTC, là, qu'est-ce que ça...
Ça veut dire Bakou, Tbilissi, Seyhan. Seyhan, c'est un port turc.
Il s'agit donc d'acheminer le pétrole de Bakou vers la Méditerranée.
Oui, nous allons en reparler, puisque ce BTC joue un grand rôle dans notre histoire. Donc, la sécession Adjar embarrasse les autorités géorgiennes. Et comme en Abkhazie, en Ossétie du Sud, Moscou souffle d'abord sur les braises.
C'est-à-dire encourage le séparatisme.
Oui, mais ça va progressivement changer. Et en 2004, c'est même le ministre des Affaires étrangères russe qui obtient le départ du dictateur Abashidze en lui promettant l'asile politique à Moscou. Mais notez-le bien, si l'Adjarie a rejoint le sein de la mère patrie, les Russes n'ont en rien renoncé à leur base militaire. Car plus que jamais, Moscou entend être présent dans le Caucase. D'abord pour y contrer l'influence américaine, et ensuite pour obtenir de la Géorgie une aide pour lutter contre les Tchétchènes.
Luna pamra mornai, ravnina, plivio de moria, serebrit, из глубины веков. Паниня, все сны земные, земные сторожит. Она нам смотрит в колыбели, нам красит первую любовь. И чтоб боя не ослабели, холодным светом свет. там греет кровь.
Она пути нам освещает, ведь без нее так ночь темна. Во все края нас провожает все та же милая, бледная луна.
Умрем, и мир о нас забудет, следы сотрутся все сполна. И освещать наш мир будет все та же милая, бледная луна.
France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
C'est en effet Igor Ivanov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a négocié le départ du tyran Hadjar Abashidze, première expérience d'un règlement pacifique dans un problème de séparatisme dans l'ex-empire soviétique. Pourtant, si j'en crois un article du journal russe Kommersant, publié en mai 2004, rien n'était moins sûr. Je cite. Issu de la vieille élite soviétique héritier d'une mentalité archaïque, Aslan Abashidze était dans tous les sens du terme un homme du passé. Un homme politique de ce genre, même dans une république autonome, et qui plus est au niveau d'un État, ne peut pas espérer durer. Toutefois, le clan dirigeant d'Abashidze paraissait assez solide pour que quiconque s'y attaque risque de se casser les dents et assez profondément enraciné pour ne pas pouvoir être délogé aussi facilement. Il y a encore quelques jours, un grand nombre d'observateurs pensaient qu'on ne pourrait éviter un long affrontement susceptible de dégénérer en bain de sang, car les individus comme Abashidze ne quittent pas le pouvoir de leur plein gré. Mais une sorte de miracle a eu lieu. Ce dénouement rapide et surtout sans violence fut une surprise totale, un événement plus étonnant encore que celui de novembre dernier, lorsque, suivant le même schéma, Edouard Chevardnadze avait été chassé de la présidence géorgienne.
Avant d'évoquer la réalité de la compétition américano-russe dans le Caucase et en Asie centrale, il faut bien prendre conscience de l'état d'esprit qui règne au Kremlin et dans une large partie de l'opinion publique russe.
Je vous écoute, là.
La grande question, c'est la restauration de l'Empire perdu.
L'Empire perdu, c'est l'Empire soviétique.
Oui, c'est ce qui guide Poutine. Pour lui, la Russie doit revenir en force dans ce qu'elle considère comme étant sa zone de sécurité, ce qu'on appelle à Moscou l'étranger proche.
L'étranger proche. Et le Caucase en fait partie?
Naturellement.
Mais concrètement, comment ça se traduit?
L'ex-KGB existe toujours et plus que jamais.
Ouais, parce que Poutine en a fait partie.
Et qu'il a truffé l'administration et les organismes d'État d'anciens membres du KGB. Lui-même n'a-t-il pas déclaré qu'il était fier d'avoir été un tchéquiste?
Ouais. Il est intéressant de noter qu'il a repris là la première appellation du KGB, à la Tchéka.
Oui, croyez-moi, ce n'est pas un hasard. Il peut le faire d'autant plus aisément que Moscou n'a jamais procédé à un mea culpa pour les crimes de l'ère soviétique ou sa politique de colonisation. Donc, l'ex-KGB, toujours bien vivant, réactive ses réseaux. Et on assiste à un impressionnant retour à l'autoritarisme, une sorte de re-soviétisation.
Vous n'exagérez pas un peu, là?
Absolument pas. Poutine concentre peu à peu dans ses mains tous les pouvoirs et muselle l'information. Ça lui est d'autant plus facile qu'il joue sur le sentiment profond des citoyens russes qui aspirent à une sorte de revanche.
Une revanche quoi, sur l'Occident?
Essentiellement, oui. Beaucoup de Russes pensent sincèrement qu'ils ont été dupés par les Occidentaux à la fin de la guerre froide.
Oui, surtout par les Américains.
Qui ont sciemment affaibli la Russie et même tenté de s'emparer de ses richesses, oui. En tout cas, cette nostalgie de l'Empire soviétique explique pourquoi, malgré les horreurs de la guerre, les Russes continuent de soutenir la politique de Poutine en Tchétchénie. Alors, vous me demandiez comment se concrétisait cette nouvelle politique d'impérialiste.
Oui.
Eh bien, le Kremlin joue sur la faiblesse de l'économie de ses anciennes possessions.
Des républiques qui dépendent encore étroitement du grand frère russe.
Oui, pour leur approvisionnement en énergie en particulier. C'est le cas en Géorgie, notamment, où le géant russe de l'électricité s'est emparé de la principale compagnie géorgienne.
Alors, si vous le voulez bien, puisque vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, Parlez-moi de cette compétition avec les États-Unis.
Ah, volontiers. C'est au début des années 90. Et donc, après l'éclatement de l'Empire soviétique, les Américains commencent à s'intéresser à la région caucasienne et à l'Asie centrale.
À cause de leurs ressources énergétiques?
Oui, d'autant que les pétroliers ont estimé que la mer Caspienne recelait des gisements pétroliers importants. Et que les réserves gazières des républiques d'Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, représentaient le quart des réserves mondiales.
Un vrai pactole, là, hein.
Et sur lesquelles louchent les grandes compagnies occidentales. Aux États-Unis, surtout, l'on rêve de pouvoir desserrer la dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient. Et seulement, il se pose un problème d'importance.
Oui, ben je vois ce que vous voulez dire. Là. L'évacuation de ce pétrole et de ce gaz vers une mer où ils seront chargés sur des tankers.
Effectivement, mais ce n'est pas si simple. Il suffit de regarder une carte. La mer Caspienne est en effet une mer intérieure, donc enclavée. Il faut construire des oléoducs. Et le trajet le plus court traverse l'Iran. Mais il n'est pas question d'accorder un droit de passage à cet état voyou.
Ça, c'est la terminologie états-unienne. Hein.
Ah, autre possibilité, au moins pour les ressources asiatiques, c'est l'Afghanistan. Mais il y a trop de risques.
Ah, les talibans, à l'époque.
Et l'instabilité chronique de la région. Les pétroliers ont donc imaginé un oléoduc beaucoup plus long.
Donc beaucoup plus cher.
Et qui irait de la Caspienne à la Turquie, en passant par la Géorgie. Mm-hmm.
C'est ce BTC là dont vous m'avez parlé tout à l'heure.
C'est ça. Et en même temps, il a été prévu la construction d'un gazoduc doublant le trajet de ce pipeline Bakou-Tbilissi-Seyhan. Mmh. Et il faut tout d'abord souligner que ces projets ont été établis au plus haut niveau, à la Maison-Blanche même, dès 1995.
À la Maison-Blanche, mais pourquoi?
Parce que les dirigeants américains de l'époque...
Bill Clinton,
bien sûr. Donc Clinton et ses conseillers considéraient que c'était pour les États-Unis une question de sécurité nationale. Et d'ailleurs, le président américain viendra en personne signer le traité international permettant la construction du BTC. Deuxième observation. Il existait déjà un oléoduc permettant d'évacuer le pétrole azéri vers la mer Noire. Mais un oléoduc qui arrivait jusqu'au port russe de Novorossiysk.
Donc un oléoduc russe.
Et ça, les Américains n'en voulaient pas.
Ah oui. Alors ils ont préféré construire un oléoduc plus long et plus coûteux.
Pour écarter la Russie, c'est la vérité.
Ouais. Et la réaction des Russes...
Ils ont été forcément furieux et ils ne se sont pas privés de le faire savoir à Washington. Pour eux, c'était une ingérence intolérable dans leur précaré caucasien.
Ouais. Le seul passage d'un oléoduc appartenant à des pétroliers occidentaux?
Ah ben ça va bien au-delà. Un oléoduc, ça rapporte de l'argent aux pays qui sont traversés, ce qu'on appelle des revenus de transit. En outre, et ce sera le cas pour le futur gazoduc qui sera mis en service en 2006, la Géorgie se verra attribuer gratuitement un petit pourcentage du gaz transporté.
Ouais, ça m'apparaît assez normal, ça. Hein?
Oui, bien sûr, mais c'est autant de gaz en moins vendu par la puissante compagnie russe Gazprom.
Mmh. Et un peu plus d'indépendance énergétique pour la Géorgie vis-à-vis de la Russie.
Et une raison supplémentaire d'agacement pour les Russes, car les Américains empiètent carrément chez eux. Enfin, ce qu'ils considèrent être chez eux.
Mmh. Mais que peuvent-ils faire?
Ils annoncent d'abord, eux aussi, la construction de nouveaux oléoducs. Et ils exercent des pressions considérables sur les républiques d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan afin qu'elles n'envoient pas leur pétrole dans les tuyaux américains.
Mmh. Avec succès?
Les Russes ne sont pas dépourvus de moyens de pression. Prenez le cas de l'Azerbaïdjan. Moscou dispose d'un argument incomparable pour faire céder les Azéris. Le même qu'ils ont d'ailleurs utilisé à plusieurs reprises en Géorgie. L'aide aux irrédentistes.
Ah, vous voulez parler de la question des séparatistes du Haut-Karabakh qui veulent être rattachés à l'Arménie?
Évidemment. Mmh. Les Russes n'hésiteront jamais à réactiver ce conflit pour empêcher que Bakou se livre à un flirt exagéré avec les Américains. Et l'argument est d'autant plus fort que la clé du problème se trouve à Moscou.
Expliquez-moi là.
Seuls les Russes, traditionnellement très liés aux Arméniens, pourront un jour persuader ces derniers d'être plus accommodants en ce qui concerne cette douloureuse question du Haut-Karabakh.
Mmh. Les Azéris ne peuvent donc pas rompre avec Moscou, c'est ce que vous voulez dire?
C'est la vérité, mais il est aussi vrai que Moscou va avoir de plus en plus de mal à résister à l'offensive de Washington dans la région.
Johnny and me, too. All he could do is
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Dès 1997, l'ancien conseiller de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, dévoile clairement les objectifs de la politique états-unienne dans le Caucase. Et dans son livre, Le Grand Échiquier, il écrit, je cite, « Un Azerbaïdjan indépendant, turcophone, équipé de pipelines allant de son territoire à la Turquie, pays avec lequel il partage des liens ethniques et qui lui apporte son soutien politique, empêcherait la Russie de détenir un monopole sur l'accès à la région et la priverait d'une influence stratégique décisive dans les régions politiques des nouveaux États d'Asie centrale. » Quant aux Russes, la journaliste du Monde, Marie Jégot, détaille leurs propres ambitions et les moyens pour les accomplir. Dominer l'espace post-soviétique, reconquérir cette zone considérée par la Russie comme relevant de la sphère de son intérêt traditionnel, tel est l'un des objectifs affichés par le Kremlin à l'aube du second mandat de Vladimir Poutine. La doctrine Ivanov, du nom du ministre russe de la Défense, illustre parfaitement cette stratégie, elle qui place tout l'espace post-soviétique à la merci de frappes préventives et envisage un recours automatique à la force en cas d'agression extérieure contre l'un des membres de l'alliance militaire qui unit la Russie à 5 républiques de l'ex-URSS, l'Arménie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, la Biélorussie et le Kirghizistan. Sur fond de désaccord à propos de l'Irak, la Russie et les États-Unis s'affrontent désormais à pas feutrés sur les terres de l'ex-bloc communiste.
Si la question de la ressource pétrolière et de son exploitation est au centre de la rivalité entre les États-Unis et la Russie dans le Caucase, il y a aussi des éléments nettement plus politiques. Je crois vous l'avoir déjà dit, mais dès l'implosion de l'Empire soviétique, les Occidentaux, mais surtout les Américains, ont avancé leur pion.
Oui, quoi. Dans le but d'affaiblir la Russie.
Et d'ancrer franchement à l'Ouest les pays qui venaient d'être libérés de la tutelle soviétique.
Oui.
Et très vite, les Américains ont fait des appels du pied aux autorités de ces pays. Et pour ne parler que de la Géorgie, la démarche a été couronnée de succès. Peu après son arrivée au pouvoir, en 1992, Edward Shevardnadze, une des chevilles ouvrières de la perestroïka, s'est clairement tourné vers les États-Unis.
En demandant de l'aide.
Ah, certainement. La Géorgie était alors dans un grand délabrement économique miné par l'existence des mafias et des différentes menées séparatistes.
Mmh. Mais à la suite de cet appel, là, les Américains ont répondu présent.
Ah bah, tout de suite. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, la Géorgie bénéficie du deuxième rang mondial pour ce qui est du montant de l'aide directe états-unienne par habitant.
Et le premier pays étant ?
Israël, bien évidemment. Ça montre donc que Washington accorde un grand intérêt à ce pays auquel auraient été livrés depuis 1992 plus de 2 milliards de dollars. Et pas pour des raisons philanthropiques, vous imaginez bien.
Pourquoi ? Pour détacher la Géorgie de la Russie.
Oui, car la Russie, même devenue non communiste, il fallait continuer à l'affaiblir et surtout éviter la reconstitution d'un empire russe.
Mmh. Et les Russes ont riposté, c'est ce qu'on m'avait dit, en aidant les mouvements séparatistes en Géorgie.
Oui, nous en avons longuement parlé. Shevardnadze, qui est resté au pouvoir pendant plus de 10 ans, a donc dû jouer une partie très difficile. D'un côté, il savait que s'il contrariait Moscou, l'unité de son pays serait mise à mal.
Ouais, et de l'autre côté, il avait besoin de l'aide économique américaine.
Ben voilà. Et cet équilibre a été très difficile à tenir. Mais le renard blanc, Shevardnadze, a été suffisamment habile pour s'en sortir pendant de longues années. Toutefois, le problème s'est compliqué. D'abord avec le déclenchement de la deuxième guerre de Tchétchénie en 1999.
Et l'accession qui a suivi de Poutine au pouvoir.
Et qui a été suivie par un durcissement de la politique russe. Mais c'est surtout le 11 septembre qui a modifié la donne.
Parce que les attentats du World Trade Center ont eu des répercussions jusqu'en Géorgie ?
Bien sûr. Je vous explique. La question tchétchène, d'abord. La Géorgie se trouve aux portes de la Tchétchénie.
Oui, voisin.
Bon, et presque naturellement, les combattants indépendantistes poursuivis par l'armée russe ont été tentés de trouver momentanément même un refuge dans les montagnes géorgiennes.
Oui, mais à l'époque, là, quelle était la politique de la Géorgie dans cette guerre ?
Neutre, en principe. Mais les Géorgiens pouvaient très bien avoir envie de rendre l'appareil aux Russes qui avaient si longtemps soutenu leurs séparatistes. Bah, c'était de bonne guerre, si je puis dire. Même si Tbilissi avait eu maille à partir avec les Tchétchènes lorsqu'il combattait avec les Abkhazes.
C'est bien compliqué, hein.
Oui, d'accord, je vous l'accorde. Les autorités géorgiennes ont en particulier accepté que des Tchétchènes trouvent refuge au nord-ouest du pays, dans un endroit très difficile d'accès, les gorges de Bankissi.
Ces réfugiés, qui étaient-ils ?
Essentiellement des civils qui fuyaient la guerre. Mais il s'est certainement glissé parmi eux des maquisards, des résistants qui venaient se reposer un moment et même s'entraîner avant de repasser en Tchétchénie. On a aussi prétendu que parmi ces milliers de réfugiés se trouvaient aussi des combattants arabes.
Ah, les fameux wahhabites?
Oui, dont certains auraient été liés à Al-Qaïda. Mais bon, vous savez ce que je pense de l'organisation de Ben Laden. Ouais,
qui n'est pas, selon vous, une structure centralisée, mais une sorte de... de nébuleuse.
Eh bah oui, qui le veut peut se réclamer d'Al-Qaïda, de la même façon qu'on peut attribuer à l'organisation n'importe quel méfait.
Alors au fond, oui, l'existence d'Al-Qaïda arrange pas mal de gens.
Bah, oui, c'est ce que je crois. En tout cas, ces gorges de Pankisi deviennent une sorte d'abcès de fixation pour les autorités russes qui exigent de Tbilissi qu'il soit mis fin à l'existence de ce foyer terroriste.
Et qu'en est-il en réalité?
Bah, franchement, je pense que Moscou se sert surtout de ce prétexte pour essayer de s'ingérer dans les affaires géorgiennes. Et c'est alors qu'intervient le 11 septembre. Bush et Poutine déclarent alors l'union sacrée pour lutter contre le terrorisme international. Bon, ce qui arrange bien Poutine qui entend justifier ainsi sa guerre tchétchène.
Au vieux de l'opinion.
Et le maître du Kremlin obtient ainsi un blanc-seing de Washington pour conduire sa sale guerre. Mais ce faisant, il permet aussi aux Américains de s'immiscer encore plus étroitement dans le Caucase.
Comment
Eh bien, l'administration américaine prend les Russes à leur propre jeu. Puisque la priorité est désormais la lutte contre le terrorisme, la Maison-Blanche affirme sa volonté d'agir sur le terrain. Et au début de 2002, avec l'autorisation de Tbilissi, les Américains envoient en Géorgie des instructeurs militaires chargés de lutter contre les agents d'Al-Qaïda censés être infiltrés dans le pays, et notamment dans ces fameuses gorges de Pankisi.
Un prétexte, encore une fois?
Bon, oui, j'en suis persuadé. L'important pour les États-Unis, c'est de prendre pied militairement en Géorgie.
Oui, mais attendez, combien d'instructeurs, là?
Oh, c'est peu, quand même. 200 hommes, je crois. En fait, ces conseillers militaires, des bérets verts, s'occupent bien plus d'entraîner l'armée géorgienne que de lutter contre les prétendus terroristes d'Al-Qaïda. Et symboliquement, ils s'installent sur une base russe désaffectée.
Ça, c'est une provocation pour Moscou, j'imagine.
Oui, en tous les cas, ça y ressemble. D'autant que Washington obtient des privilèges insensés pour ses instructeurs. Un accord de partenariat signé entre Washington et Tbilissi autorise donc les militaires américains à être dispensés de toute formalité consulaire et même à transporter des armes sur le territoire géorgien sans subir le moindre contrôle des autorités géorgiennes.
Ouais, cette fois, ça va assez loin.
En effet, et je vous laisse imaginer la fureur de Moscou. Mais ce n'est pas fini.
Attends, à cette époque-là, Edouard Shevardnadze est encore au pouvoir.
Mais plus pour longtemps, oui, car les Américains travaillent déjà à son remplacement.
Vous voulez dire, là, vous insinuez que les États-Unis ont joué un rôle dans le renversement du président géorgien et ce qu'on a appelé la Révolution des Roses?
C'est certain.
Mais qu'est-ce que les Américains pouvaient reprocher à Shevardnadze qu'il leur avait déjà consenti de nombreux privilèges?
Il leur avait pratiquement ouvert son pays au risque de se fâcher définitivement avec Moscou.
Ben oui. Ouais.
Ben alors je vous réponds. En Géorgie, Washington avait besoin de stabilité et d'une nouvelle génération de dirigeants aptes à renforcer encore plus les liens avec l'Occident. Et malheureusement, Shevardnadze leur a fourni un prétexte inespéré pour agir.
C'est-à-dire?
Ben depuis longtemps, l'ancien dirigeant soviétique n'était plus l'homme providentiel que les Géorgiens avaient appelé de tous leurs vœux en 1992. On lui reprochait notamment, outre son impuissance à réduire les séparatistes abkhazes, ossètes et adjars et la pagaille généralisée qui régnait dans tous les rouages de l'administration, son népotisme. Oh, non pas qu'il ait été lui-même corrompu, mais sa famille avait peu à peu accaparé toutes les sphères du pouvoir et s'était scandaleusement enrichi.
Ouais, la corruption, non?
Et Shevardnadze était de plus en plus contesté. Or, comptant bien aller jusqu'au bout de son mandat prévu en 2005, le président géorgien a accepté que les élections législatives de septembre 2003 soient entachées de multiples fraudes.
Ouais, parce qu'il voulait absolument rester au pouvoir.
Ouais. La réaction de la rue a été presque immédiate. Mais les manifestations populaires qui ont abouti à la destitution pacifique de Shevardnadze n'ont pas été aussi spontanées qu'on l'a prétendu. En réalité, cette révolution de velours a été minutieusement préparée.
Alors pour vous, par les Américains?
Et je le crois par un homme en particulier, George Soros.
Ah, le financier milliardaire.
Oui, lui-même. Un homme qui est par ailleurs un adversaire déclaré de Bush. Mais Soros est avant tout un chantre du libéralisme, une sorte de capitaliste éclairé qui a cru trouver dans le renversement de Shevardnadze matière à illustrer ses théories sur une meilleure gouvernance France, comme dirait Jean-Pierre Raffarin.
Ah oui.
En tout cas, d'après ce que je crois savoir, Soros a consacré des millions de dollars à aider les opposants georgiens, surtout les étudiants qui ont joué un rôle éminent dans cette affaire.
Soros, éminence grise de la révolution des roses.
Et pourquoi pas? N'a-t-il pas aussi puissamment aidé les étudiants serbes qui ont participé à la révolution qui a permis de chasser Slobodan Milosevic? Et d'ailleurs, quelques témoins affirment que certains de ces étudiants serbes sont venus apprendre à leurs camarades georgiens la meilleure façon de venir à bout d'un dirigeant contesté.
Ouais, je suis pas très convaincu. Moi.
Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, la révolution des roses de Mikhail Saakashvili a permis aux États-Unis de marquer des points décisifs en Géorgie. Le nouveau gouvernement, qui compte une quinzaine de ministres formés aux États-Unis, a annoncé son intention de renforcer sa coopération militaire avec Washington. Et la Banque mondiale a décidé de débloquer des fonds pour le financement de l'oléoduc BTC, quelques jours après l'enversement en douceur de Shevardnadze, ce qui permettra à ce pipeline d'entrer en service en 2005.
Coïncidence?
Bon, vous savez bien que je n'y crois guère. J'ajoute que le secrétaire états-unien à la défense, Donald Rumsfeld, s'est même permis le luxe de demander publiquement à la Russie de fermer ses dernières bases de Géorgie. Ce que Moscou se refuse toujours à faire. Et plus que jamais, la petite Géorgie doit compter avec ses deux envahissants protecteurs.
Pour finir, j'emprunte cette conclusion à Pierre Biarnès, auteur de L'Empire du Monde, les Américains aux frontières de la Russie et de la Chine, un ouvrage paru en 2003 aux éditions Ellipse. De la guerre de Tchétchénie au conflit du Haut-Karabakh, en passant par les tensions ethniques qui menacent la Géorgie d'éclatement, comme dans les rivalités qui se sont développées entre les compagnies pétrolières russes et occidentales à propos du tracé des oléoducs et des gazoducs acheminant les hydrocarbures de la Caspienne et de l'Asie centrale vers les marchés européens, on voit se recouper au cœur du Caucase les deux axes stratégiques majeurs de la lutte entre Moscou et Washington dans cette région du monde, à savoir un axe nord-sud qui partirait de Moscou et qui irait jusqu'à New Delhi en passant par Erevan et Téhéran, et un axe est-ouest, Ankara-Bakou, Asie centrale turcique, impulsé par les États-Unis pour contrer la volonté de la Russie de poursuivre sa politique pluriséculaire d'accès aux mers chaudes de l'océan Indien. Mais il n'est pas certain que les nouveaux argonautes venus d'outre-Atlantique auront plus de chance que Jason, autrefois, de ramener la toison d'or de l'antique Colchide, ni que les intrigues avec quelques médées géorgiennes ou azerbaïdjanaises ne se termineront pas, elles aussi, dans la tragédie. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et même des programmes un peu plus anciens.